France Info.
Week-end prochain, l'indice de confiance chute à 2 sur 5, donc je vous propose de ne pas s'en parler.
Eh bien, on en parlera un peu plus tard. Merci Christine Peña et merci d'écouter France Info. Il est 5 heures. Rendez-vous dans 4 ans en France pour les prochains Jeux Olympiques d'hiver. C'était la cérémonie de clôture hier soir des Jeux de Milan-Cortina avec le passage de la flamme aux Alpes 2030. Trois départements, toujours ce matin, en vigilance rouge de Météo France pour les crues. Exemple dans le journal avec des sinistrés en Loire-Atlantique. Une scène peu habituelle hier soir au salon de l'agriculture, une violente bagarre entre des visiteurs et des exposants. Et des routes coupées par des véhicules en feu, des colonnes de fumée, des affrontements avec l'armée. Le Mexique touché par une flambée de violence après la mort d'un parrain de la drogue tué par les militaires. La flamme olympique s'est donc éteinte hier soir à Milan et Cortina à la fin de ces Jeux d'hiver après 16 jours de compétition et au terme de la cérémonie de clôture dans les arènes antiques de Vérone. Des Jeux records pour les Bleus avec 23 médailles dont 8 en or, une belle promesse avant les Jeux à domicile en 2030 dans les Alpes françaises. Et cette cérémonie de clôture, c'est Fanny Lechevestrier qui vous l'a fait vivre hier soir sur France Info.
The Milano Cortina 2026 Olympic Winter Games close.
Le moment est solennel, prononcé par la présidente du Comité international olympique, Kirsty Coventry, alors que les athlètes multiplient les photos pour mieux graver l'instant.
C'était magique, c'était bien au-delà de tout ce que je pouvais espérer. Ça restera gravé à jamais dans nos mémoires.
Raconte le porte-drapeau français Mathis Desloges, mais pas le temps de s'apesantir que l'Italie transmet déjà les anneaux aux Alpes 2030 et au son de la Marseillaise. Mathis Desloges et Lou Jean Monod se retrouvent propulsés au centre de l'arène déjà 4 ans plus tard.
Vivre un moment où les portes sont ouvertes devant nous, c'était vraiment intense, c'était fou, grandiose.
Lou et Mathis, la biathlète et le skieur de fond, symbolisent aujourd'hui les promesses d'avenir. Comme 75% des athlètes français, les multimédaillés disputaient leur tout premier jeu. Le ski de fond va d'ailleurs bénéficier de plus d'attention en vue de 2030, promet Yann Kuchera, le patron de la haute performance à l'Agence nationale du sport.
On va mettre de l'argent là où ça peut avoir un impact. On voit bien que le ski de fond, avec ses 3 belles médailles, il y a un potentiel et des promesses qui sont incroyables.
Autant que le déhanché des athlètes au moment de refermer les Jeux de 2026.
Fanny Lechevestrier, l'une des envoyées spéciales de France Info aux Jeux d'hiver de Milan-Cortina. Aujourd'hui, en fin de journée, la plupart des athlètes tricolores sont attendus du côté d'Albertville pour une grande fête avec le public et pour lancer les Jeux d'hiver 2030 en France avec l'arrivée du drapeau olympique. Dans une dizaine de minutes, après le journal, à 5h10, on fera aussi le bilan sportif de cette quinzaine olympique avec toute l'équipe des envoyés spéciaux de France Info aux Jeux de Milan-Cortina. France Info, il est 5h03, 3 départements sont toujours ce matin en vigilance rouge de Météo France pour les crues, la Charente, le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique. Le pic de la Loire a été atteint à Ancenis hier dans l'après-midi. Une centaine d'habitants ont dû quitter leur maison inondée, mais la décrue va prendre du temps. Louis Le Bacquer est allé faire un tour pour France Info dans les communes à l'est d'Ancenis. Même s'ils ont souvent les pieds dans l'eau, les riverains gardent le moral.
Impossible pour Lilia d'accéder à sa maison de famille située dans un hameau à Vers-sur-Loire. Alors elle fait voler son drone à une cinquantaine de mètres pour aller voir.
En fait, là, l'eau elle arrive à peine à 6 mètres, le courant est raisonnable. Parce qu'en fait, c'est toujours le risque des inondations, c'est que ça transporte des objets qui viennent après percuter ou abîmer. Bon, là, c'est pas du tout le cas.
Du côté de Loire-Auxances, Greg et Hélène doivent sortir de chez eux en cuissarde pour rejoindre la terre ferme. Mais heureusement, l'eau n'a pas envahi leur maison.
Ça arrive tous les 50 ans, donc autant être là, à la limite, ça fait des fois des beaux souvenirs.
Et ça crée aussi du lien entre les voisins.
Ouais. Les gens s'entraident.
On a fait un groupe WhatsApp, on est une soixantaine dessus, et puis bah, ça se file des coups de main tout le temps. Quoi. On se prend des apéros sur les terrasses qui sont pas dans l'eau, et pas d'inquiétude, pas de stress, tranquille.
Ouais. Tranquille, à Montrelais, Marité a le même état d'esprit. Sa cave et sa grange sont inondées. Elle n'a plus de chauffage, alors...
J'ai fait du feu, bah, là, il y a des amis qui m'ont amené du bois parce que mon bois, il est là, le bûcher. Donc là, j'ai mesuré, là, il y a 70 cm.
Mais ce n'est pas dramatique, chuchote la retraitée. Elle trouve même un peu de poésie dans la montée des eaux.
C'est quand même une façon de voir le paysage autrement. L'autre jour, j'étais chez mon voisin, on regardait nos jardins qui étaient mélangés. C'est assez beau, hein, quand même.
Ce qui embête un tout petit peu Marité, c'est le nettoyage qui l'attend une fois les crues terminées.
Louis Lebacquer, d'ici Loire-Océan pour France Info. Le salon de l'agriculture a été le théâtre hier soir d'une violente bagarre. 15 personnes ont été interpellées. Un policier et un gendarme ont été légèrement blessés. Une rixe qui a opposé des visiteurs du salon à des exposants. Aurélien Tirard.
Oui, tout est parti d'un crachat sur un stand de nougat et cela aboutit à une rixe très violente. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux que nous avons pu authentifier, on distingue un groupe de jeunes hommes. Ils échangent des insultes, des coups, avec notamment deux hommes plus âgés. Ils portent des tabliers d'exposants. Tous deux tentent de s'interposer. La scène est assez confuse, mais on peut voir un jeune homme ramasser un couteau sur le stand et le brandir sans porter de coup avec. Quelques secondes plus tard, le groupe se déplace de quelques mètres. Deux hommes reçoivent deux coups violents de bâton en bois. La vidéo se termine sur l'arrivée des forces de l'ordre. Lorsqu'ils interviennent, un policier et un gendarme sont légèrement blessés. Les deux exposants du salon qui ont été pris à partie comptent déposer plainte.
Aurélien Tirard. Avant un remaniement gouvernemental provoqué par la démission des ministres candidats aux municipales, déjà un premier changement. L'actuel ministre délégué chargé de la fonction publique, David Amiel, est nommé au compte public. Il remplace Amélie de Montchalin qui prend aujourd'hui ses nouvelles fonctions à la tête de la Cour des comptes. David Amiel, âgé de 33 ans et député de Paris, est un fidèle de la première heure d'Emmanuel Macron. La France insoumise, toujours sous le feu des critiques après la mort du militant identitaire Quentin de Ranque. LFI mise en cause pour ses liens avec le mouvement antifasciste La Jeune Garde, dissous en 2025. Mais LFI reste sur sa ligne. Le parti continue de rejeter catégoriquement toute responsabilité dans cette affaire. Jean-Rémy Baudeau.
Ni remords, ni regrets. Tout le week-end, les cadres de la France Insoumise ont dispensé le même message. LFI n'y est pour rien, aucune responsabilité politique. Raphaël Arnaud, député LFI, fondateur de la Jeune Garde, dont des attachés parlementaires sont mis en examen dans l'enquête sur la mort du militant nationaliste. Il n'a pas à démissionner, il n'a même pas à quitter le groupe et la Jeune Garde ne doit d'ailleurs pas être dissoute. Ne rien concéder, ne rien lâcher, défendre parfois l'indéfendable, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon et de ses proches est claire. C'est une guerre de position pour consolider sa base et s'ériger comme le dernier rempart face à l'extrême droite. Et qu'importe si les alliances politiques avec les autres groupes de gauche vacillent, si des écologistes et des socialistes demandent des clarifications. À 3 semaines des municipales, cette stratégie pourrait coûter cher à LFI, même si pour l'heure, les membres de la France Insoumise serrent les rangs.
Jean-Rémy Baudeau du service politique de France Info. Il est 5h07 après la mort d'un parrain de la drogue tué par l'armée mexicaine. Les États-Unis appellent leurs ressortissants dans le pays à se mettre à l'abri jusqu'à nouvel ordre, y compris dans les zones touristiques. Plusieurs compagnies américaines annulent des vols. Certains avions déjà en vol pour le Mexique ont même dû faire demi-tour. Avertissement aussi de l'ambassade de France à nos ressortissants. La mort de ce baron de la drogue surnommé El Mencho, chef d'un puissant cartel de Jalico, a déclaré une flambée de violence sur fond d'intervention de l'armée, d'affrontement avec les trafiquants et il y a de très nombreuses routes coupées à travers le pays par des véhicules en feu. À Mexico, pour France Info, Gwendolina Duval.
Des affrontements armés ont été signalés, principalement au Jalisco, fief du cartel et au cœur de la crise. À Puerto Vallarta, cité balnéaire au bord du Pacifique, on a vu des colonnes de fumée s'élever dans le ciel toute la journée à cause des incendies de véhicules et de commerces. À Guadalajara, les écoles resteront fermées ce lundi. Les transports publics ont été interrompus. L'aéroport de la ville a été le théâtre de scènes de panique, relayées sur les réseaux sociaux. Pour autant, les autorités signalent qu'il fonctionne normalement. À travers le pays, d'autres incidents ont eu lieu. Les barrages routiers sont innombrables dans les états de Michoacán, Guanajuato, Guerrero, État de Mexico et autres situés dans la zone d'influence du cartel. Les ambassades des États-Unis ou encore de la France ont émis des alertes et recommandent à leurs ressortissants de ne pas bouger, tout comme la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, demande à la population de garder son calme pendant les opérations des forces armées.
Gwendolina Duval à Mexico pour France Info. Et aux États-Unis, un homme armé a été tué par les forces de l'ordre hier dans la résidence de Donald Trump en Floride, à Mar-a-Lago. Il s'était introduit avec un bidon d'essence et armé d'un fusil. Le président américain n'était pas sur place pour la Maison Blanche. Le Secret Service a agi pour neutraliser un fou. Vous écoutez France Info, il est 5h09. On retrouve Christine Peña pour la première tendance météo de ce lundi. Christine, un début de semaine marqué, on va le sentir un peu partout, par la douceur.
Mais oui, après les pluies, c'est la douceur qui va faire parler d'elle. Ce flux s'oriente au sud. Et de l'air chaud venant du Maroc et d'Algérie va remonter jusqu'en France. La barre des 20 degrés remontera en direction du nord du pays. D'ici le milieu de la semaine, d'ailleurs mercredi sera certainement la journée la plus douce, la plus ensoleillée partout, même au nord. Nous enregistrerons sans doute des records de douceur pour une fin février.
Christine Peña, on se retrouve dans une vingtaine de minutes, juste avant 5h30 pour une carte météo complète.
L'info sur les assistants vocaux, c'est France Info.
17h45.
L'info en une minute, 6h21.
Et à la une donc à midi 21.
À tout moment, il vous suffit de demander.
Mais France Info.
Près de 5 tonnes de cocaïne ont été saisies.
C'est l'une des conséquences des fortes pluies des derniers jours.
Sur les assistants vocaux,
France Info.
Pas juste l'info, l'info juste.
Les Jeux d'hiver de Milan-Cortina, c'est fini. C'était la cérémonie de clôture hier soir. On est dans un instant avec toute l'équipe de France Info en Italie pour un bilan de cette quinzaine olympique.
France Info, 5h-6h, Jean-Christophe Martin.
Après 15 jours de compétition, la flamme s'est éteinte hier soir à Milan et Cortina. Prochain rendez-vous olympique dans les Alpes françaises en 2030. La France qui a battu tous ses records pour des Jeux d'hiver avec 23 médailles, mais qui échoue d'un rien dans son objectif de finir à la 5e place au classement des nations. Elle est seulement 6e. Le bilan avec Nathalie Iannetta et toute l'équipe de France Info qui vous ont fait vivre chaque jour en direct cette quinzaine olympique.
Ce top 5 était l'objectif de la délégation française. C'est jouer sur une médaille d'argent et deux médailles de bronze. C'est comme ça. En tout cas, c'était un objectif très, très ambitieux de la part des responsables du sport français de viser ce top 5. On est donc sixième, 23 médailles, c'est 8 titres. Et c'est peut-être avec le biathlon, Fanny Lechevestrier, que vous avez, vous, commenté, évidemment, le triomphe tricolore grâce à nos biathlètes.
Ah oui, le biathlon, c'est sur les 23 médailles décrochées, ouais. C'est 13 médailles, 6 titres. Ouais. Et ce qui était assez hallucinant, c'est que les biathlètes tricolores n'ont manqué finalement qu'un seul podium. Le symbole de cette force collective du biathlon, ce sont les relais. Pour la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques, une nation a décroché les trois relais, à savoir le relais masculin avec un Quentin Fillon-Maillet, on en reparlera de feu, le relais féminin avec une Julia Simon et une Océane Michelon, également du tonnerre, et puis également l'épreuve qui avait ouvert les épreuves de biathlon, le relais mixte, où là on avait vu encore une fois la puissance des féminines. Vraiment le biathlon qui a marché sur l'eau, qui a confirmé finalement les espoirs qu'on avait sur la discipline depuis deux championnats du monde. C'est vrai que ça faisait l'an dernier à Lenzerheide en Suisse, ils avaient déjà décroché 13 médailles, et bien sur les Jeux Olympiques, ils ont réussi à le faire, à confirmer cela malgré la pression qu'il y avait sur les épaules. On pense à cette superbe médaille d'or sur la reine des courses, la Mastart d'Océane Michelon. 23 ans seulement, elle incarne aussi la relève.
On a vu arriver en masse la délégation américaine qui a remporté la dernière médaille de ces Jeux Olympiques. C'était à la patinoire Santa Giulia avec évidemment cette finale de hockey sur glace qui termine toujours les Jeux d'hiver. Voilà, face au Canada, dans un match absolument épique qui s'est terminé en mort subite. 3-3 que vous avez commenté, Xavier Monferrand, la glace, ça a été un petit peu votre élément pendant ces 15 jours.
Évidemment, ce qu'on retiendra de Milan et du parcours des Français à Milan, c'est sûr, c'est cette médaille incroyable de Laurence Fournier-Baudry et de Guillaume Cizeron. Ils étaient plus forts, plus beaux, plus élégants, plus artistiques, plus. Ils étaient plus, quoi. Voilà, il y avait quelque chose de plus qui se dégageait. D'ailleurs, c'est un peu terrible pour le couple américain parce qu'ils patinent ensemble depuis très longtemps. Ils sont mariés depuis 15 ans. Ils patinent ensemble depuis 15 ans, ils sont mariés depuis 10 ans. Enfin, je veux dire, c'est deux personnes qui sont connectées l'un à l'autre. Et bien, malgré ça, deux amis qui patinent depuis un an.
Incroyable.
Étaient plus fusionnels, plus connectés, que plus en osmose. C'était vraiment autre chose. Le programme libre exceptionnel de Guillaume Cizeron et de Laurence Fournier-Baudry, franchement, cette médaille d'or, elle est tout à fait normale et elle était attendue, et il fallait être capable, en capacité de le faire. Et en fait, ils l'ont surtout gagné avec ce programme court où ils ont devancé les Américains. Évidemment, ils ont confirmé tout ça sur le programme libre. Je dis que ça a l'air facile comme ça. On passe de cette médaille-là qui est magnifique à la déception immense d'Adam Siao Imfa, qui lui a fait le programme court le plus incroyable de sa carrière.
En individuel masculin.
Et qui derrière s'est effondré, comme beaucoup d'ailleurs, comme tous les favoris se sont effondrés sur le programme libre.
Oui, c'était un programme assez catastrophique. Juste, je vous coupe, Xavier Monferrand, parce que la délégation italienne est en train d'entrer dans Vérone. Bruno Divi, quand même, quelle performance des athlètes italiens.
Ben eux, ils sont dans le top 5, ils sont quatrièmes, avec leurs 30 médailles, dont 10 en or. Alors, on a déjà dit un mot des grandes stars. Ce qui est frappant, c'est la diversité des sports dans lesquels il y a des médailles, plus un grand nombre de finales par ailleurs. Ils ont été médaillés dans une dizaine de sports, en sachant qu'à Paris, déjà à Paris 2024, ils avaient été médaillés dans une vingtaine de sports. Et ça récompense une philosophie italienne qui est de ne pas miser sur un sport générateur de beaucoup de médailles, comme peut le faire par exemple la Grande-Bretagne avec le cyclisme, ou comme peut le faire la Hollande avec le patinage, mais d'aller dans une grande diversité de disciplines. Et il se trouve que cette année, et depuis plusieurs années, parce qu'il y a une vraie montée en puissance de l'Italie dans les classements des médailles, ça marche, ça donne des résultats. Alors il y a aussi une génération qui était là pour Cortina, et puis on se doute bien que pour des jeux à la maison, ils avaient préparé ça aux petits oignons. Mais beaucoup des athlètes qui ont gagné cette année, ou qui sont montés sur le podium cette année, déjà avaient brillé dans les mondiaux juniors entre 2015-2020. Donc il y a une vraie montée en puissance du sport italien. Un journaliste sportif de la Gazzetta dello Sport me disait que même au-delà des sports olympiques, si on regarde toutes les disciplines, l'Italie est un des pays où il y a le plus d'athlètes classés parmi les 20 meilleurs dans une grande diversité de sports, avec les USA, avec la France aussi. Donc ça consacre vraiment un pays de sport. Ça n'est pas que le calcio, ça n'est pas que le foot, l'Italie.
Bilan franco-italien de ces Jeux de Milan-Cortina avec Nathalie Iannetta, directrice des sports de Radio France, et toute l'équipe, Fanny Lechevestrier, Xavier Monferrand et Bruno Duvic. Dans un instant, la suite du Tour de France des municipales sur France Info, sur la route des élections à l'approche du scrutin ce matin à Strasbourg. D'abord l'info en une minute.
France Info, 5h-6h.
L'essentiel de l'actualité ce matin à 5h17, c'est avec Laura Dulieu. Bonjour Laura.
Bonjour.
Et le premier titre de ce lundi, Laura.
La décrue s'amorce lentement dans l'ouest de la France. L'eau a baissé de quelques centimètres hier à Angers. Les autorités prévoient une rentrée scolaire quasiment normale pour les écoliers de la zone A. Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Charente-Maritime sont encore ce matin en vigilance rouge. Le ministre de la fonction publique, David Amiel, devient ministre des comptes publics pour remplacer Amélie de Montchalin, nommée elle à la tête de la Cour des comptes. Plusieurs autres changements sont attendus au sein du gouvernement, avec le départ de ministres candidats aux municipales, à commencer par Rachida Dati. Situation très tendue au Mexique après la mort du chef de l'un des principaux cartels de drogue connu sous le nom d'El Mencho. Il a été tué hier par l'armée. Depuis, des hommes armés bloquent plusieurs axes routiers. Les États-Unis appellent leurs ressortissants dans les zones concernées à rester à l'abri. Le 15 de France reste invaincu et en lice pour le Grand Chelem après la victoire des coéquipiers d'Antoine Dupont face à l'Italie 33-8, avec le bonus offensif donc pour les Bleus. Prochain match du tournoi Destination, ce sera face à l'Écosse dans 15 jours.
France Info, Municipal 2026.
France Info sur la route des municipales, la suite de notre Tour de France à l'approche du scrutin des 15 et 22 mars. Direction ce matin Strasbourg, l'une des villes qui a vécu la vague écolo il y a 6 ans. Aujourd'hui, la maire sortante Jeanne Barseguian est mise au défi par beaucoup d'autres candidats, dont une socialiste bien connue des Strasbourgeois, Catherine Trottmann, qui tente un comeback dans les rues de la capitale alsacienne. Pour France Info, Audrey Tison.
Elle ne passe pas inaperçue sur le marché de la place Broglie. Catherine Trottmann fait partie du paysage depuis plus de 40 ans.
On la connaît depuis très longtemps. C'était ma jeunesse, c'était le tram de Strasbourg, quoi. C'était le progrès qui arrivait, quoi.
Daniel l'imagine bien revenir à la tête de la mairie, tout comme Alain.
Bon courage.
Voilà. On est très encouragés.
Elle a de bonnes idées, hein.
Elle a l'avantage d'avoir une stature, une expérience aussi.
La candidate socialiste promet de corriger les erreurs de la municipalité écolo sortante, notamment sur le sujet de préoccupation numéro 1 ici, la cohabitation du tram, des vélos et des voitures.
Ils ont fait de l'anti-voiture une sorte de marque et ils ont pensé qu'ils effaceraient ce que j'avais fait à l'époque pour réduire la circulation automobile. Mais ils ont été incapables de faire un plan de circulation valable.
Quand on retrouve la maire de Strasbourg, Jeanne Barseguian, elle arrive justement sur deux roues.
Strasbourg, c'est la ville du vélo et pour être ponctuel et efficace, il vaut mieux circuler à vélo.
L'écologiste est venu distribuer des tracts devant une école.
Vous avez le nouveau programme ?
Cette mère de famille qui roule en vélo cargo est déjà convaincue, contrairement à ce papa.
Elle a fait beaucoup de pistes cyclables, beaucoup de travaux. C'est bien pour les cyclistes et tout ça, mais pour les voitures, en fait, ça crée plus de bouchons.
Alors l'année dernière, il y a eu une phase de travaux qui a pu être compliquée, mais maintenant qu'ils sont terminés, il y a quand même une satisfaction globale sur les nouvelles places, les nouvelles pistes cyclables, où on voit vraiment une ville qui s'est transformée. Maintenant, l'espace public, on a besoin de le végétaliser, on a besoin de trottoirs plus larges parce que la population vieillit, on a besoin de pistes cyclables parce que c'est une demande des habitants.
Mais les méthodes de Jeanne Barseguian ne font pas l'unanimité. La France Insoumise lui reproche une déconnexion avec le terrain. Les Insoumis qui font liste à part derrière Florian Cobrine. À droite aussi, Jean-Philippe Véter, des Républicains, reproche un manque de démocratie locale.
C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de dogmatisme, de décisions imposées. Les habitants ont été informés, mais non pas concertés.
Qu'est-ce que vous proposez ?
Décentraliser avec des adjoints maires qui ont vraiment une capacité de décision et de réponse rapide aux difficultés, mais aussi de proposer un poste d'adjoint à notre opposition.
Il axe également sa campagne sur la sécurité dans la ville, tout comme le Rassemblement National, liste dirigée par Virginie Juron, qui promet, je cite, de sauver Strasbourg à grands coups de caméras et d'intelligence artificielle.
France Info sur la route des municipales avec ce matin Audrey Tison dans les rues de Strasbourg. Il est 5h21, l'heure du Monde d'Élodie avec Élodie Suigo et ses invités.
Bonjour Sting.
Bonjour.
Bonjour Shaggy.
Bonjour.
Vous êtes deux des artistes les plus aimés et plébiscités à travers le monde. Sur le papier, l'un est anglais, c'est vous Sting. Évidemment, vous êtes cet artiste aux multiples casquettes, tour à tour auteur, compositeur, interprète, musicien, producteur et acteur, indissociable du groupe The Police. L'autre, donc vous, Shaggy, vous êtes un chanteur, musicien et DJ jamaïco-américain, connu pour ses tubes qui ont conquis le public avec plus de 40 millions d'albums vendus et qui ont tous comme point commun de nous donner envie de bouger. On pense évidemment à Bombastic, As Sexy Lady, It Wasn't Me ou encore à Angel. Si on dépasse ces écrits figés, même si factuels, ce qui ressort de ces deux parcours, et on va en parler cette semaine, c'est le besoin de redistribuer les cartes, celles qu'on imagine définitives enfant, de s'imposer comme on en a envie. Alors ce n'est pas un hasard si vous êtes rencontrés et vous êtes actuellement ensemble sur scène au cœur de votre spectacle musical Sting qui s'appelle The Last Ship, inspiré de votre enfance qui se joue à la scène musicale de Boulogne-Billancourt jusqu'au 7 mars prochain. À quel moment vous avez décidé, et pourquoi d'ailleurs, de faire de cette enfance en tout cas un spectacle.
I think later on in my life after I'd become successful.
Je pense que c'est arrivé plus tard dans ma vie. Une fois que le succès a commencé, j'ai réalisé que ce qui faisait qui je suis, c'était finalement mon enfance. Ce sont mes années d'enfance. Je suis né près de chantier naval. Lorsque j'étais enfant, je me suis dit peut-être qu'un jour tu travailleras dans un chantier naval. Et je ne le souhaitais pas, je voulais faire de la musique. Mais à un moment donné, j'ai quand même voulu revenir en arrière vers ce quartier où j'ai grandi, qui m'a donné mon sens de ce que je suis, mon identité. Et donc ce spectacle, c'est un grand merci à mes parents, au quartier la ville où j'ai grandi finalement.
Shaggy, vous êtes à l'origine de cette rencontre. La première fois, c'était sur scène, vous vous incrustez sur scène. À la base, Sting, c'est pas réellement qui vous êtes, mais il sait qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. Racontez-nous ce moment.
Oui,
c'est ça. C'est un moment spontané. Je suis arrivé et j'ai chanté Roxanne, un peu en modèle freestyle. Et c'était un moment de magie, effectivement.
Qu'est-ce qui vous a attiré chez Sting, d'ailleurs, Shaggy ? Pour que vous ayez envie, effectivement, de franchir ce cap-là, puisqu'après, ça a donné naissance à l'album 44876.
Je crois que c'est l'inspiration. Sting a énormément créé, musicalement a fait énormément au cours de sa carrière. Quand on s'est rencontrés, il y a eu cette connexion. connexion. On ne savait pas véritablement où ça allait nous amener, mais on était tous les deux très enthousiastes et on est arrivé à effectivement cet album 4, 4, 8, 6, 7 et d'autres créations, et c'est ça qui est formidable.
Cet album, en tout cas, il parle de plein de choses. Hein. Il vous définit profondément. Il parle d'amour, d'espoir, de liberté et d'unité. Est-ce que ça veut dire que la liberté, finalement, elle n'est pas liée au fait de mieux vivre ensemble aussi?
Vous savez, la fin du spectacle est un geste de défiance, de résistance face à des forces qui pourraient nous détruire. Donc il y a quelque chose de très contemporain, il y a un message très fort. Et ce qui va nous sauver, ce qui pourrait nous sauver, c'est effectivement ce que vous disiez, l'amitié, c'est le lien, c'est ce qui nous unit les humains. Et c'est ça le thème du spectacle The Last Ship.
Comment vous avez créé ce personnage ferryman de passeur Sting pour Shaggy?
Yes, the ferryman before Shaggy came was a much smaller part.
Alors avant Shaggy, le ferryman, c'était un personnage peu important. Et puis aujourd'hui, c'est un caractère un peu supernaturel. Il est omniprésent. Et c'est lui qui établit le lien entre le monde dans lequel nous sommes et le monde d'après, un autre monde. Certains personnages le voient, d'autres personnages ne le perçoivent pas. C'est un personnage un peu mystérieux, un peu fantomatique.
Le mot passeur, il est très fort et très symbolique. Vous avez conscience, en tout cas, que vous êtes devenus des passeurs vous-même, qu'il y a des enfants qui veulent devenir soit Sting, soit Shaggy.
Vous savez, on vient tous les deux de mondes où les opportunités étaient très limitées et nous rêvions tous les deux d'un monde plus grand, d'autres choses. Donc je pense que nous sommes des exemples de cela. Et j'espère que nous pouvons effectivement inspirer certains qui sont un petit peu contraints à cause du monde dans lequel ils vivent. Et si la musique peut faire rêver, c'est formidable. Nous avons eu immensément de chance. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit aussi la rendre. Je pense que la gratitude, c'est une émotion particulièrement importante. Et je crois que nous sommes tous les deux, nous avons cette véritable gratitude aujourd'hui.
Merci Sting et Shaggy de passer cette semaine avec nous dans le monde d'Élodie sur France Info. On se retrouve évidemment demain pour continuer à parler de cette comédie musicale qui est donc visible jusqu'au 7 mars prochain à la scène musicale de Boulogne-Billancourt. À demain.
À demain.
À demain.
It's all there in the Gospels. A Magdalene girl comes to pay her respects. But her mind is a whirl when she finds the tomb empty. The stone had been rolled, not a sign of a corpse. In the dark and the cold, when she reaches the door, sees an unholy sight. There's a solitary figure and a halo of light. He just carries on floating past Calvary Hill in an almighty hurry. Aye, but she might catch him still. Tell me, where are you going, Lord, and why in such haste? Now don't hinder me, woman.
Le monde d'Élodie avec les pasteurs Sting et Shaggy à retrouver sur franceinfo.fr et avant le prochain journal à 5h30, d'abord la météo.
Dans ma voiture, j'ai l'ABS pour un freinage optimal, le GPS pour trouver mon chemin, mais le plus important, c'est que j'ai le DAB+, la radio en DAB+. Grâce au DAB+, j'écoute la même radio sur tout mon trajet, sans jamais changer de fréquence, avec une qualité sonore exceptionnelle et davantage d'infos sur ce que j'écoute. Et puis, il y a plus de choix de radio.
DAB+. DAB+. Trois lettres pour une révolution de la radio.
Plus d'infos sur ensemble-pour-le-dab-plus.fr.
L'info sur les assistants vocaux, c'est France Info.
L'info en une minute.
Les manifestations contre les violences faites aux enfants.
France Info peut vous le confirmer ce soir.
À tout moment, il vous suffit de demander.
Mais France Info.
L'info en bref, 11h21.
Éruption probable du Piton de la Fournaise.
Sur les assistants vocaux.
France Info.
Pas juste l'info, l'info juste.
La météo à 6h28 avec Christine Peña qui est de retour. Christine, avec une bonne nouvelle, de plus en plus de soleil.
Mais oui, de plus en plus de soleil. Plus les jours vont défiler d'ailleurs et plus ce soleil va s'imposer, même au nord. Mercredi sera vraiment la journée la plus belle de la semaine, la plus douce aussi. 19 degrés attendus, même au nord, hein, jusqu'à 25 vers le Pays Basque. C'est là où il fera le plus doux. Finalement, on aura peut-être des records de douceur cette semaine.
Alors la douceur, douceur, plus de soleil, mais quand même encore contrasté, des nuages.
Encore des nuages aujourd'hui. Sur les trois quarts nord, on en a qui circulent. Sous les nuages, on a un peu d'humidité. Sur un tiers sud, quand même, le soleil va s'imposer. Alors ce matin, on note des brouillards de nouveau en plaine du sud-ouest avant que le soleil ne s'impose. Le ciel est plus ou moins voilé d'ailleurs en Méditerranée avec du vent, mais le soleil sera plus franc cet après-midi. Il le sera entre les Pyrénées et la région PACA, la Corse également. Alors au niveau des vigilances, on a toujours trois départements en orange, la Sarthe, la Vendée, la Charente, trois en rouge, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Charente-Maritime. On peut avoir quelques bruines tout au plus, en tout cas des quantités insignifiantes d'eau. La décrue est amorcée, c'est la bonne nouvelle, et on verra si à 6h tout à l'heure, dans une demi-heure, la vigilance pourrait évoluer un peu favorablement. Voilà. Et puis au niveau des températures, contrastées ce matin, on a 14 à Perpignan et 2 simplement à Aurillac, qui ne déroge pas à sa réputation d'être une ville froide. Sinon, il fait 11 degrés à Nice, comme à Alençon et comme à Paris ce matin.
Merci d'écouter France Info. Merci pour la météo, Christine Peña. Il est 5h30.
France Info. Jean-Christophe Martin.
Et Christine vient de le dire, trois départements sont donc toujours ce matin en vigilance rouge de Météo France pour les crues, la Charente, le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique. Dans les autres départements touchés par les crues, l'heure est au nettoyage. Exemple pour France Info à Sainte-Croix-du-Mont, village de la rive droite en Gironde, où une digue a cédé il y a 10 jours avec une brusque montée des eaux et des dizaines d'évacuations dans le bas de la commune pour les commerces les plus touchés, comme pour le gérant d'une pâtisserie, Mathieu, qui a 25 ans. Il venait de finir de rénover et donc il accuse le coup.
C'est monté à peu près à 1m50. Ça a fait tout lever, tous les matériels, les congélateurs, les frigos. En fait, tout a pris l'eau, il n'y a plus rien à récupérer. On aurait peut-être 30-40 000 euros facile. J'ai beaucoup de soutien sur les réseaux sociaux. J'ai commencé vraiment à faire un petit coup de nettoyage. J'ai eu des amis, j'ai eu des villageois de Sainte-Croix-du-Mont. Puis donc là, des amis aujourd'hui aussi. Et petit à petit, ça va se faire comme ça. Déjà, moi, ça me motive moins de faire quelque chose. Je pense plus pour ça. Et puisque je suis venu pour déjà constater les dégâts, tout seul, je savais même pas par où commencer, donc je suis parti au bout d'une heure. Je pense que ça va être dans les détails qui vont me prendre plus de temps, parce que du coup, au fur et à mesure, on va découvrir d'autres dégradations, et puis ça va être de surprise en surprise, quoi.
Le gérant d'un commerce sinistré par les eaux à Sainte-Croix-du-Mont en Gironde. Le salon de l'agriculture a été le théâtre hier soir d'une violente bagarre. 15 personnes ont été interpellées. Un policier et un gendarme ont été légèrement blessés. Une rixe qui a opposé des visiteurs du salon à des exposants. Avant un remaniement gouvernemental provoqué par la démission des ministres candidats aux municipales, déjà un premier changement. L'actuel ministre délégué chargé de la fonction publique, David Amiel, est nommé au compte public. Il remplace Amélie de Montchalin qui part, elle, à partir d'aujourd'hui, prendre ses nouvelles fonctions à la tête de la Cour des comptes. David Amiel, c'est un fidèle d'Emmanuel Macron depuis 2015. Le trentenaire hérite de gros dossiers. Il va notamment devoir préparer le prochain budget qui sera le dernier du quinquennat, Laurine Benjebria.
S'il est encore trop tôt pour connaître la ligne de conduite de David Amiel pour ce prochain budget, dernier de la décennie d'Emmanuel Macron, son parcours laisse présager certaines décisions. Réputé libéral, fidèle du président depuis plus de 10 ans, le nouveau ministre des Comptes publics préférera en toute logique les économies plutôt que des hausses d'impôts pour réduire le déficit à 5% du PIB cette année. Chaque dépense doit être utile, jamais automatique, prévenait-il hier soir sur le réseau social X. Mais trouver un compromis budgétaire ne sera pas une mince affaire, car les discussions sur le budget se tiendront en pleine campagne présidentielle sans majorité pour le gouvernement au Parlement. Pas de quoi, cela dit, impressionner David Amiel, habitué aux tractations politiques. Il a souvent remplacé dans l'hémicycle sa prédécesseuse Amélie de Montchalin lors de la préparation du budget 2026.
Laurine Benjebria. Après la mort d'un parrain de la drogue tué par l'armée mexicaine, les États-Unis appellent leurs ressortissants dans le pays à se mettre à l'abri jusqu'à nouvel ordre, y compris dans les zones touristiques. Plusieurs compagnies américaines annulent des vols. Certains avions déjà en vol pour le Mexique ont même fait demi-tour. L'ambassade de France lance aussi un appel à la prudence. La mort de ce baron de la drogue, surnommé El Mencho, chef d'un puissant cartel de Jalico, a déclenché une flambée de violence sur fond d'intervention de l'armée, affrontement avec les trafiquants. Il y a de très nombreuses routes coupées à travers le Mexique par des véhicules en feu. Et un homme armé a été tué par les forces de l'ordre hier dans la résidence de Donald Trump en Floride. À Mar-a-Lago, il s'était introduit avec un bidon d'essence et armé d'un fusil. Pour la Maison-Blanche, le Secret Service a agi pour neutraliser un fou. Le président n'était pas sur place. La flamme olympique s'est éteinte hier soir à Milan et Cortina, la fin de ces Jeux d'hiver après 16 jours de compétition et au terme de la cérémonie de clôture dans les arènes antiques de Vérone. Des Jeux 2026 record pour les Bleus avec 23 médailles dont 8 en or, une promesse avant les Jeux à domicile en 2030 dans les Alpes françaises. Vous écoutez France Info, il est 5h34.
France Info, 5h-6h. Jean-Christophe Martin.
Et on revient tout de suite sur cette intrusion dans la résidence de Donald Trump en Floride, un homme armé tué par la sécurité du président des États-Unis. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour.
Le FBI enquête depuis 24 heures sur le profil de ce suspect, un jeune homme semble-t-il sans histoire et qui était d'ailleurs recherché par sa famille.
Austin Tucker Martin était âgé de 21 ans, parti brusquement de son domicile en Caroline du Nord ce samedi. Sa famille avait alors signalé une disparition inquiétante, relayée par un avis de recherche de la police locale. En quelques heures, le jeune homme a donc parcouru 1000 km à bord de sa voiture pour rejoindre la résidence de Donald Trump. Une fois sur place, armé d'un fusil à pompe et d'un jerrycan d'essence, il parvient sans difficulté à pénétrer vers 1h30 du matin dans l'immense parc de 8 hectares de la résidence de Donald Trump à la faveur de la sortie d'un véhicule. Selon le shérif de Palm Beach, le jeune suspect aurait ensuite braqué son arme vers deux officiers du Secret Service qui l'ont alors abattu. Signalé en état de confusion mentale par sa propre mère mais n'ayant aucun casier judiciaire, le jeune homme n'a eu aucune difficulté à se procurer un fusil à pompe. Sa famille le décrit comme un jeune homme calme et réservé, incapable d'utiliser une arme à feu. Aucune hypothèse n'est donc écartée à ce stade, y compris celle d'un jeune homme en souffrance psychologique qui aurait cherché délibérément à se faire abattre par les forces de police. Au regard de ce fusil de chasse qui n'a rien d'une arme de précision, les médias ici aux États-Unis soulignent le profil amateur du suspect. La Maison-Blanche elle-même s'est contentée de décrire l'œuvre d'un désaxé.
Le FBI est donc chargé de l'enquête. Plusieurs éléments quand même interrogent notamment le parcours, a priori sans histoire, de ce jeune homme.
Le FBI a perquisitionné le domicile du jeune homme en Caroline du Nord. Les enquêteurs sont à la recherche d'éventuelles publications de ses lectures, de son historique de recherche sur les réseaux sociaux, pour établir évidemment un profil psychologique et d'éventuelles motivations. Le FBI tente également de retracer ces 1000 km parcourus entre la Caroline du Nord et la Floride. À quel moment et où s'est-il procuré cette arme? Il s'agit d'un shotgun, un fusil à pompe à très courte portée. Si le profil amateur ne fait pas vraiment de doute. Il s'agit néanmoins de la troisième tentative d'attentat sur Donald Trump, soulignent les médias aux États-Unis, qui relèvent également la même tranche d'âge à chaque fois pour chacun de ces attentats, tout juste autour de 20 ans. Le FBI s'inquiète de la multiplication de ces profils, toujours sans histoire, qui tentent de passer à l'acte du jour au lendemain. La semaine dernière à Washington, c'est un homme de 18 ans, lui aussi armé d'un fusil à pompe, que les forces de l'ordre ont arrêté devant le Congrès.
Laurent Kramer, l'un des correspondants de France Info aux États-Unis. Il est 5h37. Olivier Piton, lui, est un avocat français installé aux États-Unis, auteur de La Nouvelle Révolution américaine, publiée aux éditions Plomb. Il souligne que cette affaire illustre la montée de la violence dirigée contre les responsables politiques et qu'elle relance aussi une nouvelle fois la question des armes aux États-Unis.
La première réaction, à peu près unanime, c'est qu'il s'agit de l'acte d'un amateur et que donc il y avait encore une fois une espèce de volonté presque suicidaire d'aller au contact, puisqu'on connaît le protocole des services secrets en charge de la protection du président, surtout après ce qui s'est passé à Butler en Pennsylvanie, qui avait été évidemment la tentative d'assassinat contre Donald Trump la plus importante pendant la campagne, où on lui avait tiré dans l'œil. Le protocole est très fort. Donc
c'est celle où la balle lui a frôlé la tempe.
Exactement. Donc on a effectivement, premier sentiment, c'est cette espèce d'amateurisme. Deuxième sentiment qui a été extrêmement noté ici, c'est qu'on a une augmentation de la violence politique aux États-Unis, en particulier depuis 2015-2016, et qu'elle est effectivement palpable, avec un élément qu'on prend relativement peu en considération, c'est une augmentation extrêmement importante de l'achat des armes à feu. Rien qu'en 2025, il s'est acheté 15 millions d'armes supplémentaires aux États-Unis pour un pays qui compte déjà près de 400 millions, 393 millions d'armes à feu pour à peu près 330 millions d'habitants.
C'est-à-dire que ça fait quelques heures que cet individu armé s'est introduit dans la résidence de Donald Trump en Floride et déjà le débat sur les armes à feu refait surface.
Plus sur la violence qui, en fait, traverse la société américaine depuis une grosse dizaine d'années, sur le fait qu'il y a quand même des assassinats politiques. Il y a eu, il y a quelques années, l'assassinat de Melissa Ortman, qui était une élue démocrate du Minnesota. On a évidemment tous en mémoire ce qui s'est passé avec Charlie Kirk. Donc, il y a des morts violentes de la part de responsables politiques, de la part d'élus ou de la part, on va les appeler d'influenceurs, qui égrène l'actualité américaine maintenant de manière assez assez impressionnante depuis quelques années. Et comme vous l'avez dit, c'est la troisième tentative sérieuse, en tout cas prouvée, d'assassinat à l'écart de Donald Trump depuis son entrée en campagne avant son deuxième mandat.
On parle beaucoup de la violence politique. Est-ce que la question de la sécurité du président est à nouveau posée aux États-Unis ?
Elle s'était posée à Butler, donc en Pennsylvanie, le fameux attentat que vous rappeliez tout à l'heure où il se fait tirer dans l'oreille, puisqu'on avait énormément parlé des déficiences, des défaillances du système de sécurité. Là, visiblement, il a bien fonctionné, si je puis dire, malheureusement pour le jeune homme, puisque en plus Donald Trump n'était pas sur place. Donc il n'y a pas vraiment de débat sur la sécurité en tant que tel du président des États-Unis. En revanche, il y a un débat sur l'augmentation extrêmement importante des actes de violence criminelle à l'encontre du président des États-Unis, mais également d'un certain nombre d'élus démocrates, républicains, qui en subissent les conséquences. Et ce débat-là, il est présent depuis une dizaine d'années. Et depuis l'année dernière, il a vraiment franchi un palier. On ne parle vraiment que de ça.
Tout de même, sur la question de la sécurité du président, il y a ce message de la porte-parole de la Maison-Blanche qui n'est sans doute pas anodin. Elle souligne que le Secret Service a agi rapidement et fermement, le même Secret Service qui a été mis en cause après les deux tentatives d'assassinat de Donald Trump.
Surtout après la première, celle de Butler, où effectivement les critiques avaient été extrêmement féroces. Là, le protocole, si je puis dire, a été respecté, c'est-à-dire dès qu'il y a un début de commencement de menace à l'égard des agents du Secret Service, ils ont la possibilité d'ouvrir le feu. C'est un protocole très différent de ce qui se passe en France, en tout cas pour ce type de sécurité-là. Et donc, effectivement, la sécurité était non seulement renforcée, mais les recommandations données au personnel chargé de la sécurité des personnalités américaines et surtout du président des États-Unis ont été extrêmement clairs. Ça avait été déjà rappelé d'ailleurs lors de la deuxième tentative d'assassinat dans le golfe, l'un des golfes de Floride, ouais. Un autre golfe de Floride, c'est de dire bah, la première menace, au premier sentiment de menace, vous tirez.
Olivier Piton, ça vous surprend que Donald Trump n'ait pas encore réagi ?
Sa porte-parole a déjà réagi et il est probable qu'il y aura une réaction de Donald Trump. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans les réactions pour l'instant, la seule réaction officielle, c'est de parler de quelqu'un qui est désaxé, qui est déséquilibré, c'est-à-dire pour essayer d'amoindrir, de limiter le caractère tout à fait exceptionnel d'une tentative comme celle-là. Donc on est plutôt sur l'idée qu'il s'agit d'un acte isolé et visiblement, d'après ce qu'on peut comprendre, l'administration Trump voudrait plutôt rapidement tourner la page, tout simplement parce que cette violence mise à incandescence, qui arrive à incandescence aux États-Unis, elle n'est pas bonne pour un président qui sent bien que de toute façon, il est la cible principale. Il n'est pas la seule cible, mais il est l'une des cibles principales de la violence aux États-Unis.
On rappelle que les États-Unis comptent davantage d'armes individuelles que d'habitants. Un adulte sur trois possède au moins une arme et près d'un adulte sur deux vit dans un foyer où se trouve une arme. Cette irruption d'un homme armé dans la résidence de Donald Trump à Mar-a-Lago en Floride, elle intervient aussi alors que Donald Trump doit tenir son discours annuel sur l'état de l'Union. Mercredi, il faut s'attendre à ce qu'il parle de cet épisode, peut-être de la violence politique qui est toujours un sujet aux États-Unis.
C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles, pour l'instant, il est prudent dans sa réaction. Toute la question est de savoir est-ce qu'il va aller vers une forme je dirais pas de victimisation, mais en tout cas, il va utiliser cet argument, cet événement pour essayer d'en profiter politiquement, ou bien au contraire, et on se dirigerait plutôt par là, vers une espèce de tentative de tourner la page. Donald Trump a toujours énormément aimé mettre en scène ce genre d'action. Il l'avait fait à l'occasion de Butler. À mon avis, il aura du mal à se retenir du fait de pouvoir le commenter, y compris en faisant des digressions à l'occasion de son discours.
L'avocat français installé aux États-Unis, Olivier Piton, auteur de « La nouvelle révolution américaine » publiée aux éditions Plomb, il répondait sur France Info à Marc Potvin. Dans les prochaines minutes, le choix de France Info, des explications sur un phénomène qui explose en France, le vol de pièces détachées de voitures qui ciblent des véhicules de particuliers. Dans un instant, gros plan d'abord sur un dispositif qui se développe dans les universités françaises pour aider les autistes à suivre des études supérieures. On va voir comment ça marche. Est-ce que ça peut leur apporter? Tout de suite, l'info en une minute.
Salut, c'est Léo, ça dit quoi?
Ça dit quoi? Le podcast original de France Info avec Léo Téchère.
C'est la trend du moment. Faut-il interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans?
Tous les jours, l'actualité expliquée aux jeunes en 5 minutes chrono.
Alors rejoins-nous sur l'appli Radio France ou toutes les plateformes de podcast, sur TikTok et la chaîne WhatsApp de France Info.
Info, 5h-6h.
L'essentiel de l'actualité à 6h moins le quart, c'est avec Laura Dulieu. Le premier titre de ce lundi, Laura, la France appelle ses ressortissants au Mexique à se mettre à l'abri.
Pour se protéger de la flambée de violence dans le pays après la mort d'un important chef de cartel tué par l'armée mexicaine, plusieurs compagnies aériennes nord-américaines ont aussi annulé leur vol dans le pays. Clap de fin pour les Jeux Olympiques d'hiver de Milan Cortina. Le drapeau olympique est désormais entre les mains des Alpes françaises qui accueilleront les Jeux de 2030 et les athlètes tricolores sont attendus ce soir à Albertville en Savoie, chargés de 23 médailles, dont 8 en or, un record en grande partie grâce au biathlon français. L'ambassadeur des États-Unis convoqué ce soir à 19h au Quai d'Orsay à Paris, après le message posté sur le réseau X par l'ambassade américaine à propos de Quentin Derenc à Lyon, affirmant, je cite, que l'extrémisme violent de gauche est en hausse. Samedi, la marche en hommage aux militants identitaires à Lyon a été marquée par des saluts et des chants nazis ainsi que des insultes racistes et homophobes. Une rentrée scolaire presque normale pour les écoliers de l'ouest de la France après des vacances marquées par des crues records. L'eau commence tout doucement à baisser dans les trois départements placés en vigilance rouge, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime.
France Info.
Ils sont autistes, souffrent de troubles 10 ou de déficit de l'attention. Les jeunes qui présentent un trouble du neurodéveloppement doivent surmonter beaucoup d'obstacles s'ils veulent suivre des études supérieures. Alors pour les accompagner, un programme tente de faire évoluer les universités pour qu'elles deviennent plus inclusives. Ça s'appelle ATP Friendly, créé en 2018, déployé aujourd'hui dans la moitié des universités françaises. Exemple pour France Info, à Angers, c'est ce qui... Pour voir ce qui peut aider très concrètement ces étudiants, c'est un reportage signé pour France Info, Noémie Bonin.
Enzo est en deuxième année de licence d'histoire.
Eh bien, bonjour Enzo. On va échanger ensemble sur un peu là comment ça se passe cette année.
Pour et fait le point avec la référente locale d'Atypi Friendly. Cet étudiant atteint d'autisme bénéficie notamment de l'aide d'une élève accompagnatrice qui le suit dans ses déplacements. Une autre prend des notes à sa place. Des éléments indispensables sans lesquels il n'aurait pas pu se lancer dans des études supérieures.
Je pense que j'aurais essayé de faire quelque chose, mais je pense que ça aurait vite été un échec, hein, que ce soit en termes de santé mentale, d'anxiété. Moi, je sais que j'ai fait des phobies scolaires en primaire quand il n'y avait pas forcément d'adaptation. J'ai eu plusieurs épisodes dépressifs ou des burn-out par rapport à ça. Ça demande un effort considérable qui est clairement pas possible de surmonter tout seul, entre guillemets, sans ces accompagnements.
Le jeune homme est aujourd'hui ravi de l'aide proposée par sa fac. Les étudiants qui en ont besoin peuvent aussi avoir du temps en plus aux examens ou des outils informatiques spécifiques. Mais au-delà des adaptations individuelles, Anna Raimondo, la responsable du pôle accompagnement à l'Université d'Angers, veut aussi travailler sur les représentations que l'on a du handicap.
Ce qui peut être mis en œuvre, c'est surtout de la sensibilisation et de la formation. Rappeler des chiffres aussi, que plus de 20% de la population est en situation de handicap, que ce qu'on appelle les troubles du neurodéveloppement, ça concerne une personne sur six. Si on adaptait notre fonctionnement collectif, on n'aurait plus besoin d'aménagement.
Mais toutes ces mesures coûtent de l'argent, un enjeu très sensible quand on sait que les universités sont en difficulté financière, sans compter l'absence de volonté d'adaptation de certains. Résultat, il manque...
Plein de choses. On se rend compte que pas grand-chose, en fait, au final, n'est adapté.
On est encore loin du campus inclusif, estime Gaëlle Litch, professeure d'anglais et référente pédagogique pour Atipi Friendly.
Que c'est un parcours du combattant pour ces étudiants-là. Par exemple, concrètement, des aménagements qui ne sont pas respectés. Des étudiants à qui on va dire que leur voix n'est pas ici. Enfin, les capacités intellectuelles ne sont absolument pas remises en cause, en fait. Tous nos étudiants sont capables.
L'enseignante pointe notamment un manque de formation chez ses collègues sur cette question du handicap.
Noémie Bonin à Angers pour France Info pour ce programme pour aider les étudiants souffrant de troubles du neurodéveloppement à suivre des études supérieures. À 5h49, les vols de pièces auto ont explosé ces dernières années et c'est le choix de France Info. Les voleurs s'en prennent directement aux voitures dans la rue ou les garages, caméras de recul, mais aussi pare-choc, volant ou même banquette arrière, tout est bon à prendre. 100 000 véhicules ont été touchés en France l'an dernier, selon les statistiques du ministère de l'Intérieur. Des pièces qui se retrouvent ensuite sur les sites de petites annonces ou alors revendues par des filières très organisées. Marc Bertrand, pour comprendre pourquoi ce trafic s'est tellement développé ces dernières années, vous nous emmenez pour France Info à Grand-Quevilly, dans la banlieue de Rouen, à la rencontre d'une victime.
Maxence m'a donné rendez-vous sur le parking, au pied de son immeuble, devant sa Clio bleue version sport.
On est exactement au lieu où ça s'est passé là, sur la place où elle était garée en plus.
C'est un matin, au moment de partir en cours, que l'étudiant en BTS de 19 ans découvre sa voiture désossée. Les voleurs n'ont cassé qu'un petit fenestron pour faire la razzia à l'intérieur.
Les grilles d'aération, ils les ont toutes prises. Ils ont démonté la colonne de direction pour avoir le volant, le compteur full digital. Ça fait pas très bonhomme, mais j'ai vu la voiture, j'ai pleuré. Pour moi, c'est mon petit bébé et ça m'a vraiment fait mal.
Depuis le vol, Maxence est devenu parano.
Non, elle reste au garage toute la semaine et je la garde tout le temps près de moi.
T'as dormi dedans déjà ou pas ?
Ouais, ça m'est déjà arrivé.
Le jeune homme pense que les voleurs ont agi sur commande. Au garage Renault du coin, le patron Tony Faria en est même persuadé. Il voit passer chaque semaine ou presque des voitures désossées.
Entre vol de caméra, entre vol de jantes, capot, optique, pare-choc, on a bien fait entre une bonne quinzaine en 2-3 mois.
Pour lui, il y a une explication.
Depuis le Covid, on a une grosse crise de pièces qu'on a beaucoup de mal à avoir. Parce qu'il n'y en a pas en stock. Il n'y a pas de délai. Dans toutes les marques, toutes les pièces, je pense que c'est ça. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne peuvent pas en avoir à la casse. Et les vols sur les véhicules, ça leur paraît plus simple.
Et du coup, c'est ça qui développe un marché parallèle, en fait.
Exactement. C'est qui paye les gamins à aller voler les pièces sur les véhicules. Et après, ils les ramènent à celui qui les a commandés.
Qui, ils ? Certains garages ?
Bah, certains garages, certainement.
Le garagiste m'emmène à l'arrière. Il veut me montrer la pièce la plus volée du moment.
Ça, c'est un béquet.
C'est une sorte d'aileron ?
C'est une sorte d'aileron qu'on met au-dessus du haillon. Ça coûte très cher. J'essaie d'en trouver en réemploi pour dépanner clients. Il n'y en a pas disponible.
Un client arrive.
Demandez-lui.
C'est James.
Le pauvre, il est ennuyé. Pourquoi vous venez ?
Pour un vol sans ma voiture.
L'artisan m'emmène voir sa Peugeot 208 garée dehors.
Voilà.
On lui a arraché l'aileron juste devant chez lui.
Hier matin, au réveil. Voilà, ça prend 100 minutes pour un mécanicien d'expérience. Et la facture, elle est salée parce que c'est un petit cash. Hein. À la base, c'est rien. Mais le prix de la pièce, c'est 600, voire même plus avec la peinture.
Et vous n'avez pas été tenté d'aller sur le bon coin et essayer de trouver...
Ah, ça y est, c'est ce que j'ai fait le matin même. Et j'en ai trouvé un qui c'est exactement le même. Le mec le vendait sur Rouen en plus. Le même, de la même couleur, la même forme. Il n'y a pas de numéro de série sur ces trucs-là, donc je peux rien prouver en gros.
Ce vendeur du bon coin, je décide de l'appeler. Sur sa page, il propose des béquets et encore des béquets de 208.
100 euros, c'est ça, ouais, le béquet, c'est 100 euros.
C'est des pièces volées ou pas ?
Ah non, moi j'ai des proches à Rouen. Du coup, quand je suis parti à Rouen... Il y a un proche à moi qui m'a dit que la pièce, il y a souvent des 208 sans la casquette. Mais je sais pas, lui, il s'est fait voler quand, qu'est-ce qui s'est passé ?
Bah, les béquets, c'est, vous les trouvez
c'est
où ?
C'est qui mon fournisseur ?
Ouais.
Ah, ça, je peux pas le dire, ça. C'est privé.
On n'en saura pas plus. Celui qui se présente comme un négociant ne répond plus au message. Ce genre de revendeur, c'est devenu le cauchemar de Benoît Leclerc, le président d'Argos, un groupement de compagnies d'assurance contre les vols de voitures.
Ça s'est vraiment industrialisé. Les réseaux sociaux amplifient le phénomène. C'est-à-dire que c'est très facile d'aller sur Telegram et de dire « j'ai besoin de tel type de pièce ». Et il y a quelqu'un qui va vous voler tel type de pièce. C'est très rémunérateur et extrêmement peu risqué. Beaucoup moins qu'un trafic de stupéfiants ou autre chose.
Il assure que le vol de pièces détachées attire aujourd'hui de véritables réseaux structurés pour l'import-export avec des voleurs mais aussi des mécaniciens et des transporteurs.
Par exemple, on a eu des cas de vol de véhicules immédiatement amenés dans un entrepôt Le véhicule est en quelques heures découpé. Il y a un camion qui prend en charge toutes les pièces et qui part immédiatement direction les pays de l'Est pour qu'il puisse être vendu de façon clandestine.
L'une des destinations privilégiées, selon lui, la Russie. Depuis l'invasion de l'Ukraine et les sanctions, cet énorme marché automobile n'a plus accès aux pièces détachées européennes, laissant place à un marché noir de plus en plus développé.
Le choix de France Info, signé ce matin, Marc Bertrand, à retrouver sur franceinfo.fr. Il est 5h53, c'est l'heure du réveil de l'écho sur France Info avec Emmanuel Cugny. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'écho avec la Banque Transatlantique, maison de gestion de fortune et créatrice d'opportunités.
Toute l'actualité économique en trois titres. Les entreprises cotées à la Bourse de Paris respectent la loi Rixain sur la féminisation des instances dirigeantes.
Oui, les comités exécutifs et autres instances dirigeantes des groupes qui composent le CAC 40, donc l'indice phare de la Bourse de Paris, eh bien, sont aujourd'hui composés à près de 29% de femmes. C'est ce qui ressort d'une étude publiée aujourd'hui par l'observatoire Schema. Alors, c'est 10% de plus qu'en 2021. Une progression qui s'explique par la promulgation de cette loi Rixain, donc, qui impose un quota de 30% de femmes dirigeantes à partir du 1er mars prochain pour atteindre 40% en 2029. La loi prévoit des sanctions financières pouvant aller jusqu'à 1% de la masse salariale de l'entreprise avec un délai de 2 ans pour se mettre en conformité.
Les chantiers de l'Atlantique se développent dans l'éolien offshore.
Oui, le groupe implanté à Saint-Nazaire double ses capacités dans cette branche d'activité. Une diversification qui a commencé il y a maintenant 10 ans. Alors, les chantiers de l'Atlantique détenus par l'État viennent de doubler la surface de l'usine Anemos consacrée à l'éolien. Un investissement de 20 millions d'euros sur un total de 100 millions dédiés aux énergies marines renouvelables, les EMR. L'éolien offshore représente aujourd'hui 10% du chiffre d'affaires du groupe à 2,8 milliards d'euros.
Et l'Union européenne appelle les États-Unis à respecter l'accord commercial passé avec Bruxelles sur les fameux droits de douane.
Oui, message officiel lancé alors que Donald Trump a annoncé vendredi vouloir augmenter les taxes de 10 à 15% sur l'ensemble du commerce mondial. Décision prise, je le rappelle, après la décision de la Cour suprême américaine de juger illégale la quasi-totalité de ces taxes. Un accord est un accord, insiste la Commission européenne, qui exige par ailleurs des éclaircissements sur les mesures que Washington a l'intention de prendre.
Emmanuel Cugny, on vous retrouve dans une demi-heure sur France Info pour le Brief Éco.
Je vous expliquais récemment que la France reste la première destination touristique mondiale. Ce matin, on va se projeter dans l'avenir. Comment faire mieux? Car la concurrence est importante au niveau international. L'Espagne est notre concurrent le plus direct et surtout le plus offensif.
Emmanuel Cugny, on vous retrouve dans une demi-heure à 6h23 pour le Brief Éco. Et tout de suite, il est 6h05 et c'est la playlist du jour de France Info ce matin avec Laura Dulieu. Et ce pied de nez des rappeurs toulousains Big Flo et Oli, un très célèbre studio.
Le studio Colors, vous savez, ce sont ces vidéos d'artistes sur fond coloré avec un micro suspendu et qui a notamment contribué à faire exploser, par exemple, le français Yamé à l'international.
Je cale le pétard entre mes dents. Bah ouais, bah ouais. Je sors la bécane, je fous la peur. Je m'en bats les couilles, c'est dangereux, sa mère.
Alors, tourner un morceau dans les studios Colors, c'est gage de pas mal d'expositions, notamment sur les réseaux sociaux, c'est donc très prisé par les artistes. Et Big Flo et Oli, on y revient, eh bien, ils auraient bien voulu en faire un de Colors. Mais le studio les a snobés, c'est en tout cas ce que expliquent les rappeurs. Ils ont donc décidé d'en faire un quand même, mais à leur manière. C'est ce que raconte Big Flo dans une vidéo postée sur son compte Instagram.
Ça fait 4 ans que les mecs de Colors, ils nous font galérer. Ils nous ont demandé à écouter 4 sons de l'album en avant-première, on leur a envoyé, on a tout fait. Ils ont fait, je suis pas sûr que ce soit dans la DA. Oui, bref. Du coup, on a mis un micro chez Airbus là. Donc voilà, pas besoin de fond de couleur. Fuck Colors, on avance.
Et les deux frères ont en effet sorti ce morceau vendredi. Il s'appelle 44D.
Je fixe le trône, comme si ma place était déjà prête. Mais si j'ai la couronne, ils voudront me couper la tête. Je fais le mec, mais au fond, je rêve d'être dans votre top 3. Me libérer de ça, mon chemin de croix. J'assume les contradictions de mon personnage. Mes larmes arrosent la fleur de l'âge. Quand on voit que la porte est fermée, on voudrait l'ouvrir. J'ai moins mal quand je sais que
je suis pas... 44D en référence à un numéro de place dans un avion. Et effectivement, dans le clip, il y a bien un micro suspendu, comme dans Colors. Mais pas devant un fond coloré, non. Mais dans un entrepôt d'Airbus à Toulouse, ville d'où sont originaires les rappeurs. On y voit un avion en construction, carrément en arrière-plan, des moteurs et des engins en tout genre. Une manière
de prouver qu'ils n'ont pas besoin d'avoir leur propre Colors. Et ça marche. En expliquant avoir été snobé par les équipes du studio, les rappeurs ont créé le buzz, si bien que ce morceau, 44D, est, selon Big Flo, le meilleur démarrage de leur carrière en termes d'écoute. Ça tombe à pic avant la sortie de leur album prévu pour le 13 mars.
L'amour est une maladie bénigne. À l'instant, je viens de faire le meilleur couplet du monde et personne encore l'a écouté, ni dans le jugement ni jugé, à l'abri des aiguilles d'une montre qui viendront tout changer.
La playlist de France Info signée ce matin. Laura Dulieu, le journal à 6h dans 2 minutes et d'abord la météo. La météo avec Christine Peña, une ambiance qui va devenir quasiment printanière, Christine.
Mais absolument, plus les jours vont passer, plus le soleil, vous verrez, s'invitera même au nord. Parce que là, sur les trois quarts nord, on a encore pas mal de nuages avec un peu de bruine, du crachin. Souvent, au sud, en revanche, depuis hier, le soleil s'est installé. Ça sera vraiment entre les Landes, les Pyrénées, jusqu'à l'Aude, autour de la Méditerranée, avec du vent. En Corse également, grand soleil, ciel tout bleu. Et puis, plus au nord, nous avons vraiment des nuages. Alors on va tirer une ligne, tiens, ça fait longtemps. De La Rochelle à Clermont-Ferrand jusqu'à Lyon, au nord de cette ligne, les nuages sont présents. On aura quand même quelques éclaircies entre le Morvan, Paris, jusqu'à Lille, près des frontières du Nord également, un peu de vent, mais pas mal d'éclaircies qui pourront être belles d'ailleurs cet après-midi sur Paris, notamment, voilà, les températures de 12 à Lille à 22 à Perpignan.
Christine Peña, il est presque 6h et pour la suite de l'info dans cette ambiance printanière, c'est Adrien Beck qui nous accompagne. Bonjour Adrien.
Bonjour Jean-Christophe, bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous en ce lundi matin. À mes côtés, bien sûr, Christine Peña. Bonjour Christine.
Bonjour.
Je salue également Sarah Ders. Bonjour Sarah.
Bonjour.
On se retrouve dans quelques secondes pour le journal. Tiens, j'avais une question avant à vous poser. Est-ce qu'il vous arrive d'utiliser ChatGPT, Gemini, des outils d'intelligence artificielle?
Jamais.
Non. Bon, bah écoutez, vous avez peut-être raison parce que figurez-vous, même si peut-être Christine faudra apprendre à ces moments.
Mais je compte sur vous.